L'armée de terre iranienne mesure sa capacité à écarter toute nouvelle menace de l'ennemi. Des combattants de la résistance palestinienne ouvrent le feu sur les forces israéliennes en Naplouse. Et en Somalie, une attaque de Shebab cible un hôtel dans le sud du pays. C'était les principaux titres. En voici le journal. Les forces terrestres de l'armée iranienne ont lancé un grand exercice militaire de 3 jours avec la participation des forces de combat dans une zone frontalière de la province de l'Azerbaïdjan occidental. Le commandant de la 164e brigade d'assaut mobile des forces terrestres de l'armée, le colonel Hamid Firouz Jayi, a déclaré que l'exercice de 3 jours a débuté le samedi 22 octobre dans le district de Pasve, Piranshahr, afin d'évaluer la puissance de combat des forces et de montrer leur capacité militaire. Les forces participant à l'exercice utilisent des armes légères, semi-lourdes et lourdes, conformément aux objectifs de l'exercice, et démontrent leur capacité de combat et de défense, a déclaré le commandant. Le commandant de la 164e brigade mobile d'assaut a souligné que les forces menaient des opérations de parachute héliportée, des raids nocturnes, des combats en hélicoptère, le contrôle des routes de communication, la capture des hauteurs et la destruction offensive et la guerre urbaine lors de l'exercice à Piranshahr. Le mois dernier, les forces terrestres de l'armée iranienne ont organisé une série d'exercices militaires de 2 jours dans la ville de Nasr Abad, dans le centre de l'Iran, qui visaient à mesurer leur capacité à écarter de nouvelles menaces. Les exercices ont réuni diverses unités issues des unités blindées, d'infanterie, d'artillerie, d'aviation de l'armée, de drones, d'ingénierie et de guerre électronique de l'armée de la République islamique d'Iran. L'exercice à grande échelle a eu lieu après que le ministère iranien de la Défense eut annoncé avoir équipé 51 villes du pays de systèmes de défense civile pour surveiller et contrecarrer toute menace de motifs biologiques, radiologiques et chimiques dans les plus brefs délais. S'appuyant sur sa doctrine militaire, la République islamique d'Iran affirme qu'elle ne serait jamais partie à l'initiation d'un conflit. L'armée, cependant, a déclaré à de nombreuses reprises qu'elle porterait à tout agresseur potentiel un coup bien plus grand que ce que ce dernier pourrait infliger au pays. À noter que les responsables des forces armées de la République islamique d'Iran ont annoncé à plusieurs reprises que les forces armées iraniennes ne laisseraient même pas l'ennemi penser à la moindre violation des frontières du pays. Des combattants de la résistance palestinienne ont ouvert le feu sur les forces israéliennes dans la ville cisjordanienne de Naplouse, dans un contexte de tension accrue dans les territoires occupés. Des sources palestiniennes ont déclaré que des combattants de la résistance ont ouvert le feu de manière intensive sur une position militaire israélienne sur la montagne Gerizim à Naplouse, dimanche soir, 23 octobre. L'armée israélienne a imposé un siège strict à Naplouse depuis le 11 octobre, bloquant les entrées de la ville, tandis que des drones israéliens survolent constamment la ville du nord de la Cisjordanie. Le siège est intervenu à la suite d'une fusillade menée par le groupe Fosse au Lion près de Naplouse qui a tué un soldat israélien. Le siège, qui selon les responsables israéliens se poursuivra jusqu'à nouvel ordre, a eu des répercussions économiques sur une ville qui a une importance industrielle et commerciale particulière pour la Cisjordanie. La fusillade a eu lieu alors que le groupe Fosse au Lion a juré dimanche une réponse ferme à l'assassinat de l'un de ses membres plus tôt dans la journée. Les forces israéliennes ont récemment mené des raids nocturnes et des tueries dans le nord de la Cisjordanie occupée, principalement dans les villes de Jenin et de Naplouse, où de nouveaux groupes de combattants de la résistance palestinienne ont été formés. Au moins 175 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, ainsi que dans la bande de Gaza, depuis le début de l'année, dont 51 Palestiniens lors de l'assaut de 3 jours d'Israël sur Gaza en août, selon le ministère palestinien de la Santé. Des groupes de défense des droits locaux et internationaux ont condamné l'usage excessif de la force par Israël et sa politique de tirer pour tuer contre les Palestiniens. De plus, des rapports indiquent que les actes de résistance palestiniens se sont intensifiés au cours des dernières 24 heures au milieu d'attaques accrues par des colons et des militaires israéliens. Le Centre d'information palestinien a déclaré que les combattants palestiniens avaient mené 23 opérations dimanche 23 octobre, faisant 3 blessés parmi les soldats et les colons israéliens. Une explosion s'est produite le 23 octobre dans la province d'Adramout, située à l'est du Yémen. Les habitants de la ville d'Al-Wadi, dans l'Adramout, ont annoncé qu'ils ont entendu le bruit d'une explosion qui s'est produite près de la compagnie pétrolière canadienne Calvary. Les habitants de la ville ont témoigné qu'au moins 4 militaires ont été tués et plusieurs autres ont été blessés au cours de cet incident dans lequel un colis piégé a explosé à proximité de la compagnie canadienne. Il n'est pas encore clair si l'explosion a été réalisée par les forces yéménites ou a été causée en raison d'un différend entre mercenaires saoudiens et émiratis. L'unité d'artillerie saoudienne a pilonné samedi 22 octobre différentes zones dans le district frontalier de Shada, situé dans la province de Saada, nord-ouest du Yémen. Dans ses prévisions régionales, le Fonds monétaire international, FMI, pointe du doigt une croissance en berne et une inflation toujours très forte, alors que le risque de pénurie d'énergie pourrait aggraver la situation. La croissance sur le continent européen est désormais attendue à 3,2% en 2022 et 0,6% en 2023. L'Europe était sur le point de sortir de la pandémie fin 2021 avec une combinaison de politiques globalement appropriées, tandis que la hausse de l'inflation était en passe de s'atténuer. Mais la guerre de la Russie en Ukraine et ses retombées ont complètement changé les perspectives, a détaillé le FMI. Les tensions sociales pourraient s'intensifier en réponse à la crise du coût de la vie, poussant les gouvernements à avoir une politique budgétaire plus expansionniste qui pourrait contraindre les banques centrales à resserrer davantage leur politique monétaire. Devant faire face à une combinaison de croissance faible et d'inflation élevée qui pourrait s'aggraver, les décideurs européens sont confrontés à des arbitrages sévères, à des choix politiques difficiles, a encore relevé le FMI. Une attaque à la voiture piégée a ciblé ce dimanche 23 octobre un hôtel réputé de la ville somalienne de Kismayo, dans le sud du pays, selon la police somalienne. Le chef adjoint de la police de la région du Jubaland, Mohamed Nassi Goulad, a expliqué que les kamikazes étaient rentrés dans l'hôtel Tawakkal avec un véhicule chargé d'explosifs en entraînant un échange de tirs entre les assaillants et les forces de sécurité. M. Goulad, qui n'a pas confirmé le nombre de victimes, a appelé au calme, affirmant que les forces de sécurité rétabliraient bientôt l'ordre dans l'hôtel fréquenté par des membres du gouvernement et des hommes politiques. Le groupe terroriste Al-Shabaab, qui combat pour renverser le gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale, a revendiqué l'attentat contre cet hôtel sous haute protection. Les forces armées de la RDC, FARDC, alerte dans un communiqué publié dimanche 23 octobre, la communauté nationale et internationale sur la relance des hostilités par les rebelles du M23. Depuis jeudi 20 octobre, leur position sur l'axe Rangira-Rwanguba-Chengrero dans le territoire de Rutshuru, Nord Kivu, ont été la cible des rebelles du M23 et leurs alliés, les forces de défense du Rwanda, RDF, affirment les FARDC dans ce communiqué. Après avoir essuyé des revers sur cet axe, une autre offensive des rebelles a été lancée sur l'axe Intamugenga, où des combats se sont poursuivis le dimanche, poursuit le communiqué de l'armée. Plusieurs populations ont fui la région pour se mettre à l'abri. Les forces armées de la RDC rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, défendre l'intégrité du territoire national et protéger la population jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Pacifique, les États-Unis dans la zone de danger. La Chine et les États-Unis sont entrés dans la zone de danger, estime le spécialiste de la défense américain James Holmes. Le professeur et l'analyste militaire James Holmes est revenu dans une note récente sur les propos de Mike Gallagher, membre du Congrès de Wisconsin, formulés peu après la publication de l'indice annuel de la Heritage Foundation, qui a jugé récemment les forces armées américaines faibles par rapport aux engagements qui leur étaient confiés dans des missions, entre autres, au Pacifique occidental. Bien que Mike Gallagher n'ait pas utilisé le terme, remarque James Holmes, il pense toutefois que les États-Unis sont entrés dans une zone dangereuse de leur compétition stratégique contre la Chine. Une zone de danger est à un intervalle où un concurrent voit une opportunité de résoudre un dilemme stratégique en sa faveur, généralement par la force des armes. Et c'est un intervalle fini. Un tel concurrent estime que les tendances en matière de puissance militaire, de croissance économique, de démographie, etc., se retourneront bientôt contre lui. En d'autres termes, un concurrent envisageant une zone de danger pense qu'il est dans une échéance. Il doit agir maintenant ou jamais. L'analyste fait ensuite un parallèle entre la situation actuelle dans le Pacifique occidental à celle en Allemagne impériale il y a plus d'un siècle, où la Grande-Bretagne a été tentée d'utiliser la force maritime pour contrecarrer un rival naissant, l'Allemagne. Aujourd'hui, une puissance maritime émergente, la Chine, est tentée de recourir à la force avant que l'Amérique, puissance maritime historiquement en déclin, ne retrouve son statut d'hégémonie océanique. Les États-Unis ont renoncé à leur avantage en mer. Il faut du temps ainsi que de la volonté politique pour organiser une campagne de retour en arrière pour reprendre leur supériorité habituelle sur l'armée populaire de libération de Chine. Mike Gallagher observe que la marine américaine, loin de grossir en nombre et en puissance de feu pour relever le défi de la Chine, devrait diminuer en nombre, passant des 292 navires des forces de combat d'aujourd'hui à 280 dans les années à venir. Il est vrai que la Chine est restée le défi de sécurité le plus complet pour les forces américaines dans tous les domaines, comme l'a indiqué le rapport annuel de la Heritage Foundation citant les avancées technologiques de l'armée chinoise. Les Chinois ont lancé leur premier porte-avions local au cours de l'année écoulée et déploient un grand nombre de nouvelles plateformes pour leurs forces terrestres, maritimes, aériennes et spatiales, ainsi que dans le domaine électromagnétique. L'armée de l'air a été classée très faible et la marine faible. L'incapacité persistante de la marine a arrêté et a inversé la diminution continue de sa flotte, tandis que les forces adverses augmentent en nombre et en capacité, contribuent à une évaluation plus faible. Les principaux problèmes de l'armée de l'air sont liés à la formation et à la rétention des pilotes ainsi qu'au vieillissement de sa flotte d'avions. Le service le plus récent, la force spatiale, a également été qualifié de faible, le rapport citant des efforts lents et progressifs pour moderniser les plateformes vieillissantes.